Que Dieu soit béni. Très heureux, très ravi de vous souhaiter la bienvenue à notre première soirée consacrée donc à ce séminaire dont le thème est « Église en danger, l'esprit de Jézabel ». Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il nous a gardés tout au long de la journée. Et dans son amour, eh bien, il a permis que nous terminions cette journée avec lui ici à la borne. Et à l'occasion de cette première soirée, consacrée donc à cet enseignement sur un des dangers qui guettent, qui menacent l'Église de Jésus-Christ, quelle que soit l'époque dans laquelle elle vit, quel que soit le contexte dans lequel elle évolue, eh bien, cette Église-là est soumise à toutes sortes de pressions de la part du monde des ténèbres, de la part donc des pouvoirs occultes, de la part du diable et de tous ses esprits séducteurs. Donc, merci d'avoir donc répondu à notre invitation. Je voudrais que vous regardiez la personne qui est à votre droite et à votre gauche, que vous la saluiez simplement par votre sourire. Un sourire pentecôtiste, un sourire biblique, un sourire évangélique. Alléluia. Un petit sourire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, bienvenue à cette première séance de notre séminaire consacré à cet esprit que nous appelons l'esprit de Jézabel. Comme je l'ai souligné, il nous faudra beaucoup, beaucoup plus de temps pour parler de cet esprit, car contrairement aux deux autres, eh bien, c'est un esprit sur lequel nous avons déjà eu à entendre d'une manière ou d'une autre des choses, des enseignements, des prédications, etc. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Mais il y a encore beaucoup à dire. Et le Seigneur a toujours quelque chose à nous révéler. À chaque fois que nous nous approchons de sa parole, à chaque fois que nous essayons d'aborder un thème, un rapport avec sa volonté, un rapport avec l'Église, cette Église qui lui est tant chère, et pour laquelle, mes amis, il a tout fait jusqu'à donner sa propre vie à la croix pour cette Église-là. C'est son épouse, il tient absolument à ce qu'un jour cette Église puisse être enlevée dans la gloire et aller le rejoindre sur le nuée, afin qu'ensemble, ils puissent célébrer ce que nous appelons les noces de l'agneau. Alléluia. Mais l'ennemi, connaissant cela, connaissant eh bien, la gloire extraordinaire à laquelle le Seigneur destine l'Église, l'ennemi connaissant le destin final de l'Église, c'est-à-dire de l'ensemble de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance et qui auront persévéré jusqu'au bout, le diable connaissant, eh bien, toutes ces grâces que le Seigneur leur réserve dans sa haine contre eux et pour les empêcher d'aller jusqu'au terme de leur marche, va tout faire, va lancer dans la bataille, eh bien, tous ces esprits qui vont utiliser tous les moyens pour distraire, pour manipuler, pour séduire, pour, écarter les gens, pour affecter la vie des gens, les ministères que le Seigneur a établis dans l'Église, comme un virus informatique affecte un ordinateur. Quand un virus se passe dans un ordinateur, il laisse derrière lui que des dégâts, oui ou non. Il faut reprogrammer, n'est-ce pas? Je crois que pour certains d'entre nous, et d'autres qui nous suivent à travers les différents médias, le moment arrive où le Seigneur doit le reprogrammer. Parce que le virus Jézabel est passé par là, les a marqués à oblitérer leurs pensées au point de leur communiquer une vision chrétienne qui est tout à fait aux antipodes de la vision de l'Église, de la vision de la vie chrétienne telle que le Seigneur l'a établie. Donc, voyez-vous, il y a tant à dire et j'espère, durant ces 3 jours, j'espère qu'ensemble et dans la présence du Seigneur, ensemble et sous la conduite du Saint-Esprit, ensemble, en nous approchant du brasier de l'Esprit, nous allons recevoir de choses dont nous avons besoin, et en même temps, nous allons expérimenter des choses que le Seigneur a prévues avant même que nous pensions un seul instant à organiser ce séminaire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Église en danger, l'esprit de Jézabel, nous allons incliner nos têtes dans la prière et nous aimerions nous tourner vers le Seigneur pour que dans sa grâce, il puisse disposer nos cœurs à recevoir son enseignement, que par sa grâce, il puisse aider son serviteur à proclamer sa parole avec force, avec conviction, à avertir le peuple de Dieu avec et dans un langage clair des différents dangers qui guettent, qui menacent son Église, celle qu'il bâtit par son esprit depuis plus de 2000 ans, sur laquelle il veille, afin que cette Église, eh bien, soit une Église qui marche dans la gloire, qui demeure dans son triomphe, une Église dont le Saint-Esprit s'occupe en ce qui concerne son toilettage, en ce qui concerne sa santé physique et morale. Nous inclinons nos têtes et nous nous recommandons à lui. C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous inclinons nos têtes devant toi à l'occasion, Seigneur, de cette première soirée dans le cadre de notre séminaire consacré à ce danger, à cette menace toujours permanente que l'influence, que la manipulation, que la séduction de l'esprit de Jézabel. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, au travers de ce séminaire, recevoir toute la lumière, ô Dieu, sur la manière d'agir, de fonctionner, ô Seigneur, de ce pouvoir mystique, de ce pouvoir spirituel, Seigneur, ô Dieu, vis-à-vis de ton Église, que tu nous aides tout au long de ce séminaire à comprendre ce que tu entends par esprit de Jézabel, à comprendre, ô Dieu, ce que chacun de nous devrait avoir comme attitude vis-à-vis d'une telle séduction. Aide-nous, Seigneur, à demeurer attentifs à ta parole. Seigneur, à rester ouverts à l'action de ton esprit au travers de ta parole. Aide-nous, ô Dieu, à n'avoir Dieu que sur toi, à nous focaliser entièrement, corps, âme et esprit, sur toi et sur toi seul. Nous voulons d'autres esprits que ton esprit à toi, Seigneur. Nous voulons d'autres pensées que ta pensée à toi. C'est pourquoi nous voulons, en ton nom, Jésus-Christ, prendre autorité sur tout esprit des distractions, sur toute pensée du monde des ténèbres, qui chercherait à nous distraire d'une manière ou d'une autre. Nous prenons autorité et nous éloignons tout cela de chacun de nous dans le nom de Jésus. Nous voulons, ô Dieu, que nos structures mentales soient, ô Seigneur, sous le contrôle de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci. Merci pour le sang que tu as versé à la croix, car tant que nous serons, Seigneur, en toi, tant que nos vies seront constamment arrosées, seront constamment purifiées par ton sang, nous serons à l'abri de toutes ces flèches embrasées de l'ennemi, mais aussi de toute cette influence nocive, manipulatrice de cet esprit de Jézabel. Bénis ton serviteur, pose ta main sur lui, donne-lui d'être simplement une voix prophétique, Seigneur, pour ton peuple, une voix parmi tant d'autres voix qui crient au Dieu, à toi, et qui t'amène, toi, à aller rejoindre ton peuple là où il est. Tu éloignes toute confusion et tu nous donnes d'être très attentifs par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, mais aussi par le pouvoir que tu as, Seigneur, de nous maintenir en ta présence, attachés à la vérité de ta parole. Bénis et sanctifie cette parole, ce premier enseignement, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Donc, bonsoir à tous. Alléluia. Shalom à chacun de vous. Shalom à tous ceux qui nous suivent en dehors de ce grand auditoire. Vous qui êtes sous le chapiteau, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous vous saluons, vous qui êtes ici derrière nous sur le parking, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons, vous qui êtes du côté de l'école maternelle, vous qui êtes derrière ici, nous vous saluons tous et nous vous disons Combien nous sommes très heureux d'être ensemble dans sa présence. Nous vous saluons également, vous tous qui êtes là ainsi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc commencer aujourd'hui avec le danger que constitue pour l'Église de Jésus-Christ, le danger que constitue pour chacun de nous, enfants de Dieu, pour tous ceux qui sont dans le ministère, quel qu'il soit, pour tous ceux qui assument une quelconque responsabilité dans le corps du Christ, le danger que représente cet esprit que nous appelons l'esprit de Jézabel. Nous allons faire notre première lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, et lire la parole que le Seigneur avait adressée à cette église qui était implantée à Thyatire, dans ce qu'on a appelé autrefois l'Asie mineure, qui est aujourd'hui l'actuelle Turquie, une église comme la nôtre, alléluia, une église bénie comme nous allons le voir, une église que Dieu, eh bien, avait visitée d'une manière ou d'une autre, mais une église, hélas, qui à un moment n'a pas veillé et a ouvert la porte à la louve de ténèbres, à savoir Jézabel. Une louve féroce, cruelle, redoutable. Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service ou ton ministère, ta persévérance ou ton endurance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Si nous pouvions arrêter notre lecture ici et essayer de nous imaginer ce que fut cette église de Thyatire, nous dirions quoi? Une église bénie, une église extraordinaire, oui ou non? Le Seigneur lui-même dit, je connais tes œuvres. Tes dernières œuvres sont même plus grandes que les premières. Je connais ton amour pour moi, ton amour pour le royaume de Dieu. Je connais ta foi, je connais ta persévérance, je connais ton endurance. Nous pouvons nous retrouver dans ces éloges-là, oui ou non? Nous qui vivons plus de 2000 ans plus tard, voyez-vous, parmi nous, il y a des gens qui font preuve de foi, une foi ferme, inébranlable, envers le Seigneur, alléluia. Des gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Nous sommes là parce que nous l'aimons, oui ou non? Des gens qui persévèrent dans leur marche avec le Seigneur, quel que soit le contexte, eh bien, ils persévèrent, car ils savent en qui ils ont cru, car ils savent qui ils sont. N'est-ce pas? Oui, nous pouvons nous reconnaître dans ces éloges. Gloire à Dieu. Mais nous devrions aussi nous reconnaître dans le grief que le Seigneur va épingler dans la suite. N'est-ce pas? Mais, verset 19. Je connais tes œuvres, certes, verset 20. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite, à la débauche, à la prostitution. Le terme grec, c'est le terme pornéa, qui a donc donné en français pornographie. Donc tu séduis mes serviteurs et tu les conduis donc à la pornéa, à l'inconduite, à la débauche, à la prostitution, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite, ou de sa débauche, ou de sa prostitution. Voici que je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants. Ainsi, toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine, et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, à cela je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme, jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il le fera paître, comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles écoute ou entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Gloire au Seigneur. Si nous pouvons nous retrouver dans les éloges que le Seigneur a fait à cette église de Thyatire, eh bien, il est tout à fait naturel, tout à fait normal et même juste que nous puissions aussi nous retrouver dans les griefs. Voyez-vous que le Seigneur épingle en ce qui concerne cette église de Thyatire. Mais aussi, nous pouvons nous retrouver dans l'aspiration de cette église-là de remporter un jour la bataille pour un jour être récompensé par le Seigneur. Gloire à Dieu. Église en danger, l'esprit de Jézabel. C'est donc le troisième séminaire dans cette série d'enseignements consacrés aux différentes menaces qui guettent l'église de Jésus-Christ. Danger, eh bien, que court son église depuis que cette église, eh bien, est en train d'être bâti sur cette terre par le Seigneur lui-même, car il en est l'architecte, il en est le concepteur, il en est le propriétaire, alléluia. Il en est le prince, la tête. Eh bien, il bâtit cette église dans un contexte très très difficile. Il bâtit cette église non pas au ciel, mais ici sur terre, avec des hommes. Eh bien, lorsqu'il va les chercher et qu'il les amène dans son église, dans la plupart des cas, et même souvent, ce sont des hommes dont la vie, eh bien, avait été détruite par le diable, par le péché, usée par la malédiction. Troisième danger qui guette et menace l'église de Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler un tout petit peu, très brièvement, les deux premiers esprits que nous avons eu à examiner au cours de deux séminaires. Il y a eu d'abord l'esprit de Bélial. Ensuite, il y a eu l'esprit de Gabata. Nous avons vu pas mal de choses en rapport avec ces deux esprits, en rapport avec ces pouvoirs des ténèbres et leur influence sur l'Église, leurs actions mortifères et funestes vis-à-vis de tous ceux qui sont appelés à hériter du royaume des cieux. Ces deux esprits constituent, nous l'avons vu, une grande menace, un grand danger pour l'Église de Jésus-Christ. Par leur séduction, que ce soit au travers des enseignements, que ce soit au travers des doctrines hérétiques, que ce soit par leur influence immorale, eh bien, ou idolâtre, par leur séduction, ces esprits-là, mes amis, arrivent à créer des conditions qui ne sont pas favorables à l'Esprit de Dieu, des conditions, mes amis, morales et spirituelles, qui vont empêcher l'Esprit de Dieu d'agir en toute liberté parmi ceux qui ont confessé Jésus, parmi ceux qui se sont repentis et qui sont en route, en marche vers l'éternité. Alléluia. Non seulement parmi le peuple de Dieu, mais aussi et surtout parmi ceux que Dieu a fait lever et à qui il a donné un ministère bien particulier. Ceux-là, nous l'avons vu, sont la cible privilégiée de tous ces esprits-là. Car l'ennemi, pour de boussoler le troupeau, pour essayer d'éparpiller le troupeau, cherchera d'abord et avant tout à frapper la tête. Oui ou non? Cherchera par tous les moyens, mes amis, à distraire ceux qui ont une certaine autorité dans l'Église, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, assument une certaine responsabilité dans le corps du Christ. Et gloire à Dieu. Ces esprits-là sapent l'action de Dieu au milieu de nous, mes amis. C'est pourquoi nous devons veiller. Et aujourd'hui, nous allons donc rester dans ce registre des dangers, dans cet univers, dans cette constellation démoniaque qui représente une véritable menace pour l'Église de Jésus-Christ, parler d'un autre danger aussi menaçant, aussi terrible, mes amis, que l'esprit de Jézabel. C'est cet esprit-là constitue un obstacle majeur, d'abord à l'épanouissement, à la croissance de l'œuvre de Dieu, aussi bien sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. L'œuvre de Dieu est appelée à prospérer, alléluia. Gloire au Seigneur. Je rends grâce à Dieu de ce que cette œuvre qui a commencé il y a presque 30 ans ici, 30-31 ans, eh bien, ayant commencé au départ avec un homme et sa femme, eh bien ensuite, deux ou trois personnes sont venues, et puis après ces trois personnes, quatre, cinq sont venues, et avec le temps, nous avons vu cette œuvre de Dieu prospérer, s'épanouir, connaître une floraison spirituelle extraordinaire ici à la borne. La preuve, c'est que ce soir, nous sommes là. Non pas une petite poignée, non pas une dizaine de personnes, mais plus que cela. Alléluia. Ça, c'est la volonté de Dieu. Car si nous voulons que l'enfer se vide, que l'enfer soit pillé, eh bien, nous le verrons au nombre de chrétiens convertis, ou plutôt de convertis. Plus il y aura de conversions, plus l'enfer sera de plus en plus pillé et son influence de plus en plus amoindrie sur nos sociétés. Voyez? Cet esprit, non seulement, essaye d'empêcher d'être un obstacle à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu, quantitativement parlant, qualitativement parlant, mais cet esprit de Jézabel est aussi un obstacle pour l'épanouissement des différents ministères que le Seigneur a établis dans son Église. Voyez-vous, pour construire, bâtir son Église, le Seigneur a donné des ministères, alléluia. Il a appelé les uns comme pasteurs, les autres comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme prophètes, alléluia. Eh bien, il les a appelés, non pas pour leur donner du travail, voyez-vous, afin qu'ils aient un salaire à la fin du mois, certes, ils auront besoin de manger, voyez-vous, ils auront besoin de vivre, mais le salaire n'est pas le premier objectif, le premier but pour lequel le Seigneur les a appelés. Il les a appelés en leur donnant ce ministère, en leur adressant cette vocation, pour qu'ils puissent contribuer, mes amis, au perfectionnement de tous ceux qui appartiennent à Jésus, alléluia. Qu'ils puissent contribuer à la croissance de l'Église. Qu'ils puissent contribuer, mes amis, à l'avancement de l'Église. Gloire à Dieu. Alors cette Église, plutôt cet esprit-là, est un véritable obstacle par rapport au ministère. Et nous le verrons. Et j'ai des témoignages. Des ministères qui ont été abîmés, détruits par cet esprit de Jézabel. Des gens qui avaient bien commencé, mes amis, sur qui Dieu avait déposé un appel particulier, à qui Dieu avait donné une onction particulière, mais dans leur marche, eh bien, voyant que le succès était avec eux, voyant que le succès les accompagnait, petit à petit, ils n'ont plus veillé, et cet esprit a frappé fort. Il y a un proverbe qui dit ceci, « Si le vent du succès souffle très fort, réduit ta voilure. » Vous voyez? Très sage, hein? Oui ou non? Eh oui. Lorsque le vent du succès, lorsque le vent de la réussite souffle de plus en plus, dans les voiles de ta barque, tu avances. Fais très attention, car le même vent peut t'égarer. Voyez-vous? Alors réduis l'envoilure. À un certain moment, eh bien, ton bateau n'avancera plus, ça pourra te permettre de savoir si tu es toujours dans le cap que le Seigneur a fixé. Alléluia. Donc, cet esprit-là est un véritable obstacle au ministère et par conséquent au ministre, au serviteur que Dieu a appelé à leur épanouissement. Mais il est aussi un frein à l'épanouissement personnel de chacun de nous. On trouve dans l'Église du Seigneur des hommes et des femmes, eh bien, pour diverses raisons, nous le verrons, vont être influencés, manipulés par l'esprit de Jézabel et devenir des véritables problèmes pour l'Église, pour son avancement, pour son épanouissement. Voyez, donc, cet esprit de Jézabel, eh bien, est toujours là. Et par rapport à cet esprit, comme je l'ai dit, il y a tellement à dire. Tellement à dire, pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons déjà entendu un sermon, une exhortation, une prédication, un enseignement sur cet esprit-là, oui ou non? Voyez-vous? Oui. De ces trois esprits qui constituent un des trios infernales, le plus infernal, eh bien, donc, ce trio-là, s'il y a un esprit sur lequel on a tant écrit, sur lequel on a tant parlé, c'est bien l'esprit de Jézabel, n'est-ce pas? Oui. Donc, on a tellement parlé que, en préparant ce message, j'ai eu de la peine à savoir par où commencer. Voyez? Et comment terminer? Pour ne pas me retrouver à dire peut-être des choses que les gens avaient déjà dites là-dessus, tant mieux. Mais en cherchant l'originalité, ce n'est pas facile. Car si quelqu'un a déjà eu à en parler là-dessus, si 10 personnes ont déjà eu à en parler, eh bien, il y a toujours des aspects de la parole de Dieu en rapport avec ça qui n'ont jamais été exploités. Car la parole de Dieu est insondable, elle est intarissable. Alléluia. Inépuisable. On ne peut pas dire, j'ai pris la pensée de Dieu, je l'ai exploitée de fond en comble. Il n'y a plus rien à dire, pas du tout. Alléluia. Donc, Jézabel, un obstacle. Jézabel, nous allons le voir. Lorsqu'il se met à travailler, il se met en résonance avec les deux autres pour constituer ce que j'appelle trio infernal. Eh bien, il constitue... ou du moins leur conjonction, leur collaboration en trois, mes amis, finit par créer des synergies destructrices pour l'Église de Jésus-Christ. Et par rapport à ça, il n'y a aucune assemblée qui soit à l'abri. Je voudrais que nous soyons clairs. Il n'y a aucun homme qui soit à l'abri, qui ne soit pas vulnérable par rapport à l'esprit de Jézabel. Nous avons donc une responsabilité, d'abord sur le plan personnel, ensuite sur le plan de l'Église, de veiller pour que cet esprit ne puisse pas frapper d'une manière ou d'une autre. Car, comme je le disais, cette constellation démoniaque cherche par tous les moyens à exercer une emprise sur l'Église de Jésus-Christ. Car, que nous ne le voulions pas, l'Église que le Seigneur bâtit reste la cible privilégiée du monde des ténèbres, n'est-ce pas? Reste la cible privilégiée du diable, voyez-vous? La cible privilégiée de différents pouvoirs politiques, pouvoirs, financiers, sociaux, pouvoirs religieux, l'Église par tous les moyens. À l'heure où nous parlons, il y a des régions sur cette terre où les disciples de Jésus, où l'Église est persécutée, où du sang, eh bien, coule en abondance de la part des disciples de Jésus, simplement parce qu'ils appartiennent au Fils de Dieu. Voyez-vous? Donc, cette Église, semblable à une barque qui navigue en haute mer, eh bien, elle est ballottée par des houles de plus en plus dangereuses, qui sont donc des pressions extérieures qui s'exercent sur l'Église, des pressions politiques. C'est ainsi que dans certaines régions du monde, eh bien, des lobbies homosexuels, eh bien, au nom, je ne sais, d'un électorat, des hommes politiques ont cédé à la pression de ces différents lobbies, et au-delà de ce lobby, à la pression de pouvoir des ténèbres, pour légiférer sur l'homosexualité, permettre des mariages homosexuels, permettre de choses, mes amis, qui sont à peine nommables. Jusqu'au point de faire de l'envie un objet de commerce. Ça va plus loin. Que deux hommes choisissent de vivre entre eux, nous leur dirons le danger qu'ils courent. Mais ils seront toujours libres, oui ou non, de faire leur choix. Qu'ils fassent que deux femmes se mettent ensemble, nous leur montrerons les dangers qu'elles courent. Comme du reste, nous montrons aux adultères, aux voleurs, aux corrompus et aux corrupteurs les dangers qu'ils courent également. Mais lorsque quelqu'un s'engage dans quelque chose, il doit assumer les conséquences jusqu'au bout. Un enfant ne peut pas être fait par deux hommes. Un enfant ne peut pas non plus être fait par deux femmes. Donc, si vous choisissez de vivre ensemble, pourquoi vouloir chercher des enfants à les élever? Car naturellement parlant, bibliquement, humainement, un enfant vient toujours de la relation entre et... Maintenant, nous allons nous retrouver avec des enfants élevés par deux pères, par deux femmes. Je n'ose pas m'imaginer les conséquences dans 20, dans 30, dans 40 ans. Voyez-vous? Aujourd'hui, on ne mesure pas ça, on essaye de faire des statistiques un peu orientées. On va questionner un enfant qui a été élevé par deux mères lesbiennes et dit « Non, mais je suis épanoui et tout ça, mais ça ne veut rien dire. » Voyez-vous? Je vous ai donné l'exemple de l'industrie. Lorsque le monde a connu l'ère industrielle. On a découvert la machine à vapeur. On a commencé à exploiter la houille, le charbon, à gogo, hein? Oui ou non? Mais personne ne pouvait s'imaginer que les gaz brûlés, le monoxyde de carbone, rejeté dans l'atmosphère, finirait un jour par devenir un problème pour nous. On a exploité du charbon partout. Jusqu'à ce qu'on commence à se rendre compte qu'il y avait là des problèmes et on commence à fermer les mines de charbon les unes après. Donc c'est à long terme. Ce n'est pas aujourd'hui. Voyez-vous? Ce que je qualifie de sodomo-gomorisation de certaines sociétés, entraînera des conséquences terribles. Et l'Église est soumise à cette pression. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas très longtemps, les protestants français ont décidé à la majorité, vous voyez, ils marchent maintenant selon la démocratie, hein. À la majorité, je ne sais pas, simple ou absolue, mais enfin. Mais ils ont décidé que voilà, désormais, on peut bénir les mariages, entre guillemets, de couples homosexuels ou lesbiens. Voilà. Ça, c'est la pression. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Que nous restions attachés à la parole du Christ, alléluia. Que s'il faut même que nous restions la seule qui proclame cette parole au péril de notre vie, qu'il en soit ainsi. Gloire à Dieu. Donc, non seulement Séoul, c'est la pression extérieure qui s'exerce sur l'Église, pression politique, pour amener l'Église, mes amis, à se compromettre, à se détacher de son maître, car la seule manière pour l'Église de rester attachée à son maître, eh bien, c'est de rester soumise à l'autorité de sa parole. Alléluia. Nous n'avons pas d'autre autorité que celle du Christ qui se manifeste par et au travers de sa parole. Alléluia. comme les réformateurs protestants l'ont dit, notre seul principe, c'est la sola scriptura, la seule écriture, ça. En matière de morale, tout doit être examiné à l'aune et à la lumière de la parole de Dieu. Que ce soit en matière de foi, en matière d'éthique, mes amis, ne cédons pas. Restons fermes. Alléluia. Mais il y a aussi des dangers qui soufflent, qui guettent l'Église. En dehors de ce zoul, de ces pressions politiques, sociales, la persécution de la part du monde extérieur, mais il y a aussi des vents démoniaques qui soufflent de plus en plus de l'intérieur pour séduire les uns, pour manipuler les autres et ainsi arrêter l'Église dans sa marche vers la gloire. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est donc une mise en garde. Souvenons-nous de la mise en garde de l'apôtre Paul aux anciens de l'église d'Éphèse. Pourquoi je prends l'église d'Éphèse? Parce que l'église d'Éphèse, à cette époque-là, mes amis, était considérée comme un modèle. Voyez-vous? L'église d'Éphèse, c'était la métropole des églises d'Asie. C'était une ville que Dieu avait visitée puissamment. À un moment, l'apôtre Paul était en route vers Jérusalem. Il voulait arriver absolument à Jérusalem et fêter la Pentecôte. Alléluia. C'est un pentecôtiste. Hein? Oui ou non? N'en déplaise à certains. Oui. Il voulait absolument être à la Pentecôte à Jérusalem. Et alors qu'il partait vers Jérusalem, il s'arrête au port de Milet. C'est une ville côtière à plus ou moins 500 kilomètres d'Éphèse. Hein? Si vous avez l'image devant vous. Au sud, au sud-est, il s'arrête là, il fait venir les anciens d'Éphèse. Il parle avec eux, il leur donne quelques instructions, il leur rappelle la manière dont il a vécu, comment il a assumé son ministère, comment nuit et jour, pendant 2 ans, dans cette ville d'Éphèse, mes amis, qui était une ville, j'ai déjà eu à en parler, dans laquelle se trouvait une des grandes merveilles de cette époque-là, c'était le temple dédié à Artémis, ou Diane, qu'on appelait la Diane d'Éphèse. Voyez? Des gens allaient de partout, en pèlerinage à Éphèse. Il parle avec eux. Ensuite, il les met en garde. Et je voudrais que nous ouvrions grandement nos oreilles, car ceci va nous introduire à notre message. Il le met en garde. Et quelle a été la raison de sa mise en garde vis-à-vis de ces gens-là, de ces anciens, de ces épiscopes? Là, on trouve le terme évêque, hein, pour ceux qui aiment le titre. Vous voyez, à l'époque, dans l'Église, le terme épiscopos, qui a donné évêque en latin, eh bien, était utilisé pour les anciens, pour les pasteurs, tous ceux qui veillaient sur le troupeau du Seigneur. Alléluia. Ce n'était pas un titre honorifique, un titre religieux, comme on en voit même parmi les pentecôtistes, voyez-vous, avec leur mitre, hein, un vêtement religieux. Il y en a même qui acceptent qu'on les appelle Monseigneur. Gabata. Eh bien, il leur dit ceci. Écoutez-moi, ça se trouve dans Actes 20 et 19 plutôt. Il leur dit ceci. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront de loups cruels, de loups féroces, de loups redoutables, qui n'épargneront pas le troupeau. Première mise en garde. Ensuite, il ajoute, et que du milieu de vous, parmi vous, dans vos rangs, s'élèveront certains hommes qui prononceront des paroles pernicieuses, qui prononceront des paroles perverses, des paroles de nature à égarer les gens. Paul s'adresse aux anciens d'Éphèse. Il s'adresse à ces hommes que le Saint-Esprit avait établi comme anciens sur son église d'Éphèse. Voyez-vous? Il leur dit, de loups allaient venir s'introduire dans la bergerie parmi le troupeau du Seigneur. Première mise en garde. Deuxième mise en garde, que du milieu d'eux, pas du dehors, hein, suivez-moi bien, du milieu d'eux, de leur rang, parmi eux, certains hommes allaient se lever pour, prononcer des paroles des natures à perturber les croyants, des natures à les induire en erreur, des paroles perverses, des paroles, impures, des paroles tordues. Voilà le danger que l'église d'Éphèse courait. Paul, sous le Saint-Esprit, a fait cette mise en garde qui était aussi valable pour toutes les autres églises. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? De veiller à ce que de loups ne s'introduisent pas dans la bergerie. De veiller à ce que certains, parmi les chrétiens, parmi les serviteurs de Dieu, ne se lèvent pas pour faire des divisions par des paroles perverses, etc., perturber les gens, etc. Comment ça? Par rapport à ce danger, il leur dit ceci. Premièrement, veillez sur vous-même. Les responsables devaient veiller sur eux-mêmes. Alléluia. Faites un effort, je sais que la fatigue est là. Ensuite, ils devaient veiller sur le troupeau sur lequel le Seigneur les avait établis. Et pour terminer, non seulement il les met en garde, il leur dit, voilà, je vous recommande à Dieu, ensuite, je vous confie à la parole de sa grâce, qui seule a la puissance de vous édifier et de vous donner l'héritage auquel vous aspirez, auquel vous êtes destiné. Dieu est sa parole. Voilà, mes amis, si vous voulez, la thérapie qu'il propose par rapport à ce danger-là, à savoir de loups qui s'introduiront pour essayer de détruire le troupeau, mais aussi de gens qui se leveront du milieu de l'Église pour enseigner autre chose que ce que le Saint-Esprit a inspiré à ses serviteurs. Mais non! Est-ce que cette recommandation de Paul avait-elle été observée? Voilà une question qu'on peut se poser. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, malgré tout ce que le Seigneur a fait à Éphèse, vous savez que pour ceux qui lisent et étudient la Bible, ils se sont certainement rendus compte de ceci. Dans tout le Nouveau Testament, ce n'est qu'avec l'apôtre Paul, lors de son ministère à Éphèse, que la parole de Dieu nous dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires. Pour les autres, on dit Dieu faisait des prodiges, faisait des miracles, etc. Mais là, avec Paul, lors de sa présence à Éphèse durant 2 ans, la Bible nous dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par Paul, au point où il y avait une telle onction sur cet homme, les gens venaient avec des linges, partaient avec des linges ou des étoffes qui avaient touché le corps de Paul, allaient les poser sur les malades, et les malades étaient guéris. Vous vous rendez compte? Ceux qui étaient démonisés, ceux qui étaient possédés par des esprits impurs, rien qu'au contact avec le vêtement qui avait été en contact avec l'apôtre du Christ, les démons partaient. C'est à Éphèse, mes amis, où il y a eu un réveil extraordinaire. Paul a prêché. La Bible nous dit qu'il y a eu des Juifs, des Grecs, qui se sont convertis. Des gens ont abandonné la magie, la sorcellerie. Voyez-vous, ceux qui pratiquaient les sciences occultes ont amené et des livres, et des livres, et des livres pour les brûler, parce qu'ils venaient de rencontrer Jésus. Alléluia. C'est à l'épître aux Éphésiens, donc à cette église d'Éphèse, que le Saint-Esprit nous a laissé
Eh bien, cette vérité en rapport avec le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. C'est aux Éphésiens que l'apôtre Paul a révélé toute la panoplie spirituelle, toutes les armes que le Seigneur met à la disposition du croyant, aussi bien sur le plan offensif que sur le plan défensif. Donc c'était une église bénie, oui ou non? Oui ou non? Alléluia! C'est pour réveiller certains. Je sais, il y en a qui viennent tout droit du travail, je comprends et je compatis. Mais bon, tenons encore ferme. Tenons bon, alléluia. Donc, une église bénie. Mais est-ce que cette mise en garde avait-elle été impliquée peut-être du temps de ces anciens? Mais toujours est-il que, mes amis, à l'heure d'aujourd'hui, si vous allez à Éphèse, eh bien vous ne trouverez pas une église vivante, conduite par le Saint-Esprit, tout ce qui reste des traces du passage du christianisme dans cette ville-là, ce sont des vestiges des anciennes églises. Voyez-vous, c'est tout. Puisque la région aujourd'hui est dominée par l'islam. Car avec la présence de l'Empire ottoman, eh bien tout ce qui était chrétien, eh bien a fait l'objet d'une destruction systématique. Voyez-vous, non seulement tout ce qui rappelait le christianisme, même ceux qui étaient chrétiens, vous avez tous entendu, d'ailleurs ça a créé des problèmes avec certains États européens, la reconnaissance du génocide arménien par des Turcs. Ils ont tué à peu près 1 million parce qu'ils étaient chrétiens. On a brûlé les églises. On a forcé les Arméniens à se convertir à l'islam. Voyez-vous? Donc bref, nous pouvons dire que cette mise en garde n'avait pas été respecté, peut-être à cette époque-là, mais par après, eh bien, cette mise en garde n'a pas été respectée. Quid alors? Qu'en est-il de l'église de Thyatire? Eh bien, pour l'église de Thyatire, nous pouvons dire que les responsables n'ont pas veillé, d'abord sur eux-mêmes, ensuite, ils n'ont pas veillé sur le troupeau du Seigneur. Puisqu'ils n'ont pas veillé, et sur eux-mêmes, et sur l'église du Seigneur, eh bien, la porte était grandement ouverte à la louve des ténèbres, qu'est Jézabel, d'entrer dans la bergerie du Seigneur pour faire des dégâts. Puisqu'ils n'ont pas veillé, eh bien, la porte de la basse-cour étant grandement ouverte, le renard jézabélien est entré pour se livrer à sa besogne macabre, funeste, de destruction. Vous voyez, voilà mes amis ce qui est arrivé à l'église de Thyatire. Ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas veillé sur eux-mêmes, ils n'ont pas veillé sur le troupeau du Seigneur. Et une femme prophétesse, sous la manipulation de cet esprit que nous appelons Jézabel, parce que elle s'appelait Jézabel, nous verrons ça un peu plus en détail demain, eh bien cette femme va exercer une influence. Elle se disait prophétesse, n'est-ce pas? C'est elle qui a amené les gens à croire qu'elle était, elle n'a pas reçu ce ministère de prophétesse. Elle se disait que vos yeux s'ouvrent. Elle se disait prophétesse. Elle est arrivée à rouler, comme on dit en français, à rouler dans la farine tous les responsables. Peut-être qu'elle avait un fort caractère. Hein. Voyez? Qu'elle avait un ministère. Qu'elle pouvait enseigner. Non seulement enseigner des temps à autre, vous savez, on peut enseigner une chose, l'une, etc., de manière un tout petit peu désordonnée. Mais elle avait un enseignement systématique. Plus loin, le Seigneur parle de la doctrine, de ça, d'o. Qu'est-ce que c'est une doctrine? C'est une présentation systématique de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Sur un thème bien précis. C'est ainsi que nous parlons de la doctrine du Christ. C'est-à-dire tout ce que la Bible dit concernant le Seigneur Jésus. Alléluia.
Et les étudiants en théologie savent comment on appelle ça. La christologie. Très bien. C'est ainsi qu'on parle de la doctrine du Saint-Esprit. Tout ce qui tourne autour du Saint-Esprit, de sa personnalité, de son œuvre, de ses actions, de sa manière d'agir. Et tout ça, les étudiants en théologie, on appelle la pneumatologie. Tout ce qui concerne les anges. Il y a une doctrine. Qui sont-ils, etc. Leur nature. Quelle est leur vocation? Doivent-ils être adorés? Faux! Ce sont des créatures comme vous. Et tout ça, cette doctrine s'appelle l'angélologie. Bref, vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle une doctrine. Eh bien, le Seigneur parle à propos de cette femme qu'elle enseignait quoi? Ça! Et regardez autour de vous. Regardons autour de nous. Certaines personnes se disant prophétesses. Certaines personnes se croyant spécialisées dans un domaine particulier de la Bible, comme le combat, comme la prospérité, élaborent des doctrines que les gens suivent au lieu de suivre la parole de Dieu. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, Jézabel n'est jamais loin. Voyez, n'est jamais loin. Sous des attitudes de fausse spiritualité, il frappe cet esprit-là pour nous montrer la gravité de cette église. Et je veux terminer par là, car il y a beaucoup à dire, voyez. Pour nous montrer la gravité, en même temps, à son église, c'est-à-dire à l'église de Thyatire, la gravité de sa situation. Et en même temps, voyez, un message à l'église en général. Quelle que soit l'époque dans laquelle elle se trouve, elle vit, quel que soit le contexte, pour nous montrer la gravité de la situation, j'ai fait, en étudiant ce passage pour le séminaire, j'ai observé une chose. C'est que les paroles que le Seigneur a prononcées vis-à-vis de l'église de Thyatire, eh bien, se retrouve dans 12 versets. C'est la seule église, mes amis, à laquelle le Seigneur a plus parlé. 12 versets. J'ai fait comme un petit compte. L'église de Thyatire, c'est 12 versets. Pour le reste, Laodicée, 9 versets. Éphèse et Philadelphie, 7 versets chacune. Pergame et Sardes, 6 versets. Et l'église de Smyrne, voyez-vous, 4 versets seulement. Vous voyez? 4 pour l'église de Smyrne. 6 pour Pergame et Sardes. 7 pour Éphèse et Philadelphie. Et 9 pour Laodicée. Et quand on arrive à Thyatire, combien? 12. Vous voyez? 12. Lorsque quelqu'un a commis un petit délit et qu'il se présente devant le juge, en moins d'un quart d'heure, l'affaire est, on lui brandit le code civil. Pa, c'est fini. Le code, je ne sais pas quoi, tu es condamné. Mais lorsque c'est en assise, voyez, lorsque c'est des faits graves, voyez, où le présumé coupable, eh bien, s'amène avec toute une batterie d'avocats guéris, voyez, eh bien, le procès ne va pas prendre un jour, hein, parce que quelquefois ce sont des dossiers comme ça. Vous trouvez, les avocats sont là. Je me suis intéressé à certaines affaires, grosses affaires. Je peux vous assurer, c'est des volumes. Quelquefois 30 000 papiers à lire. Et ça prend quelquefois tout un mois, le même procès, oui ou non. Donc ça veut dire que le temps mis
pour un procès montre que ce n'est pas n'importe quel. C'est surtout dans le cadre des homicides, de ceci ou de cela. Eh bien, ici, c'est la même chose. 12 versets par rapport à Thyatire. Et parmi les choses que le Seigneur épingle, nous trouvons au cœur des griefs un nom, une femme, Jézabel. Et derrière cette femme, une influence démoniaque, une influence spirituelle. Voyez-vous, qui a donné à cette personne un pouvoir manipulateur extraordinaire, un pouvoir de contrôle, de domination. Et c'est ainsi qu'elle a entraîné certains dans l'inconduite, dans la prostitution. Elle a amené les gens à l'idolâtrie, n'est-ce pas? Quel pouvoir! Dans la même église, où le Seigneur a loué les membres, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que le premier. Une église bénie, oui ou non? Une église extraordinaire, mais cependant, une église qui a manqué de sagesse et qui a laissé la porte ouverte à la louve de ténèbres. C'est comme ça que je la nomme. Une véritable louve. Quand un loup s'infiltre dans la bergerie, eh bien, ce n'est pas pour caresser le brebis, ni avoir une partie de baseball ou je ne sais pas quoi. Non, c'est pour détruire, pour manger, car c'est un animal, un prédateur, un carnassier, carnivore. Eh bien, la louve des ténèbres, que l'esprit de Jézabel arrive aussi, hélas, à s'infiltrer, et de manière tout à fait sournoise, de manière tout à fait subtile, à aveugler les uns, à manipuler les autres, et à se présenter comme étant la pro, avec beaucoup d'autorité. Et nous allons voir, ce sont des personnes qui ont une autorité terrible. En face de ces gens-là, même des gens bien placés dans la société. En face de ces gens-là, de certaines femmes, jézabélisées. Vous trouvez une autorité tout un général. Comme ça. Oui, maman. Quand elle lui parle au téléphone, même ces gardes du corps qui sont là-bas, en regardant la position, la manière dont il parle et le visage qui change, quelquefois ils se disent, mais c'est peut-être le président qui l'appelle. C'est peut-être le premier ministre. Vous voyez, c'est peut-être une autorité. Non? Oui, c'est une autorité des ténèbres. C'est la louve qui donne ses instructions. Est-ce que tu as jeûné pendant 40 jours? Est-ce que tu as récité les 3 versets? Oui, maman. Quelquefois, on ment. Je n'ai pas eu le temps. Ça va ensemble, c'est le même esprit. L'esprit de Jézabel n'est pas loin. Faisons très attention. Les responsables de l'église de Thyatire n'ont pas veillé. Ils n'ont pas veillé sur eux-mêmes. Ils n'ont pas veillé sur le troupeau. Et par conséquent, ils ont laissé la porte ouverte. Et la louve de ténèbres est entrée comme un serpent. S'est infiltrée. La vipère d'Éden. Elle s'est infiltrée. Et là, elle a commencé sa sale besogne de prophéties à gauche, de prophéties à droite, de visions, de ceci, des enseignements codifiés sous forme de doctrine qu'on donne aux gens, au point où les gens lisent plus ces enseignements-là que la parole de Dieu. Ouvre les oreilles, ouvre les yeux, Jézabel est derrière. Tout enseignement de nature à nous éloigner de la Bible, qui monopoliserait toutes nos pensées, et qui deviendrait comme une sorte de grille de lecture et d'interprétation de la Bible, où on devrait voir la Bible au travers de cet enseignement de la prophétesse. Au travers de cet enseignement du prophète, ça ne peut pas venir de Dieu. Alléluia. La Bible est à notre disposition. Pourquoi? En ce jour-là, nous serons inexcusables. Eux, à cette époque-là, Paul écrivait, sous l'inspiration de Dieu, les lettres, c'était des lettres circulaires, hein, qui devaient passer d'une église à... Quand la lettre écrite aux Éphésiens était lue, ceux d'Éphèse, les scribes convertis qui étaient à Éphèse, eh bien, ils la reproduisaient. Voyez? Et puis ensuite, ils gardaient la copie, et cette lettre allait à Laodicée, de Laodicée à Smyrne, Pergame, Sardes, Thyatire, et Philadelphie, par exemple, Jérusalem, tout ce que vous voulez. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la Bible. Hein? En ce jour-là, vous regarderez à gauche, la prophétesse ne sera pas là. Vous regarderez à droite, ta doctrine, ou sa doctrine, celle qui t'a accompagné, dans ton sac à main, les dames. Au lieu d'avoir la Bible, c'est toujours ce syllabus-là. À force de le toucher, hein, c'est devenu presque jaunâtre. Tu es assise, tu enlèves. Ça devient de la superstition, de la magie. C'est une forme d'occultisme. Lis simplement la parole de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul a dit aux anciens d'Éphèse, je vous recommande à Dieu et je vous recommande à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage qui vous est destiné. Alléluia. Dieu ne vous jugera pas parce que vous n'avez pas lu l'enseignement, je ne sais de quel auteur ou tel autre auteur. Non. Vous voyez, Dieu vous jugera de l'intérêt que vous aurez manifesté vis-à-vis de sa parole. Vous voyez, la lire. Et aujourd'hui, les gens ne lisent plus la Bible. C'est comme ça que nous sommes devenus très vulnérables. Voyez-vous, nous marchons avec une foi de charbonnier, comme on dit. Voyez, une foi très émotionnelle, une foi superficielle. Ah, on m'a dit une vision. Ah, on ne réfléchit même plus. Voyez. Une vision, oh, qu'est-ce qu'on a dit? Et il y en a, ils ne peuvent pas avancer dans la vie s'ils n'ont pas appelé la prophétesse. Ils ne peuvent pas se présenter au travail s'ils n'ont pas lu l'enseignement de la... Que vos yeux s'ouvrent. Je terminerai en disant, comme le Seigneur lui-même l'a dit, que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute ce que sa parole, ce que le Saint-Esprit nous dit au travers de sa parole, que la Bible. Alléluia. Alors, il n'y a plus de place au doute ni à la confusion. Jézabel agit d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Alors, je vais vous demander de vous mettre debout, si vous voulez bien. Nous allons terminer bientôt. Et je voudrais que nous invoquions le nom du Seigneur. Ne partez pas, s'il vous plaît. Il peut te tendre un piège ici à la sortie. Avec son filet, il est là. Dès que tu passes, hop! Nous allons prier simplement pour invoquer le nom du Seigneur. Sur son église là-bas. Sur toutes les églises que nous connaissons. Et recommander toutes ces églises à la grâce de Dieu. Et demander à ce que seule la parole de Dieu soit reconnue comme autorité. Parmi nous, dans nos vies et dans toutes ces églises-là. Prions tous ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour l'enseignement de ta parole. Merci de nous mettre en garde contre, Seigneur, cette tentative de donner la parole à n'importe qui. Jézabel est à l'affût. Oh, nous prions pour que la borne demeure soumise à l'autorité de ta parole. Nous prions pour que la borne, oh Dieu, reste toujours les yeux tournés vers toi et fixés sur toi. Que ta parole soit notre seule règle en matière de morale, en matière de conduite, en matière d'éthique, ô Dieu, que ta parole soit notre seul levier qui active notre foi. Oh, nous bénissons ton nom. Bénis toutes les églises de la KDC. Nous prions pour que, Seigneur, l'esprit de Jézabel soit lié. Au nom de Jésus, nous brisons l'influence de Jézabel. Parmi nous, dans la ville. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous lions le trône de Jézabel. Nous le renversons. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous rende digne. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Maître. Tu es merveilleux. En toi nous sommes plus que vainqueurs. Nous n'avons rien à craindre. Tant que tu es avec nous, tant que tu es pour nous, la victoire nous est assurée. Nous marchons sur les œuvres de Jézabel. Dans le nom de Jésus, nous brisons son influence. Nous cassons sa manipulation. Oh, que le sang de Jésus nous lave. Oh, merci Seigneur. Merci Maître. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Maître. Que nous repartions en sachant que si Jézabel, son esprit peut agir, tant tu es là pour nous aider. Seigneur, à le contrer, avec une foi ferme, avec un engagement extraordinaire vis-à-vis de toi. Merci pour cette première séance.